Voici une question dont la réponse pourra avoir un impact éternel dans votre vie. Est-ce que tous doivent croire au Seigneur Jésus pour être sauvés? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et salutaire aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. J'ai de très bonnes questions pour vous aujourd'hui. Elles vous ont probablement déjà traversé la pensée. Par exemple, est-ce que la tête et le cœur doivent être impliqués quand nous confessons le nom du Seigneur? Est-ce que le salut est universel? Est-ce que tous doivent croire au Seigneur Jésus pour être sauvés? Est-il nécessaire qu'il y ait des messagers envoyés par Dieu pour proclamer l'Évangile? Comment Dieu s'y prend-il pour que le message de l'Évangile soit proclamé jusqu'aux extrémités de la terre? Dieu est-il patient? Le salut par grâce et le salut mérité par les œuvres sont-ils compatibles? Est-ce que ceux qui refusent la lumière peuvent devenir aveugles? Demeurez à l'écoute, le pasteur Régent Joly va nous enseigner ce que la Bible dit en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs à bien comprendre ce qu'il désire nous enseigner. Prions. Seigneur mon Dieu, on est devant toi. Et on a confiance en toi. On sait que tu veux nous enseigner la vérité. Dispose nos cœurs. Que rien ne fasse obstacle à ce qu'on puisse entendre le message de l'Évangile, tout ce que tu veux nous enseigner pour que nos vies soient transformées par toi. On a besoin de ta grâce, Seigneur, de ton amour. Parle-nous, mon Dieu. On t'écoute. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu appelle maintenant au salut des gens de toutes les nations. Nous avons la responsabilité de venir au Seigneur Jésus, et la religion sans relation intime avec le Seigneur ne vaut rien. La justice de Dieu est maintenant disponible. Nous n'avons qu'à la réclamer par la foi. La loi servait à nous conduire au Seigneur Jésus, et elle n'a jamais été un moyen de salut comme le pensaient les pharisiens et comme le pensent certaines personnes religieuses aujourd'hui. Nous terminerons le reste du chapitre 10 de l'Épître aux Romains. Mais nous reprenons la lecture au verset 7 pour rappeler le contexte. Chers amis, débutons notre lecture. Romains chapitre 10, versets 7 à 10. Ou, qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Oui, chers amis, nous devons croire de la tête et du cœur. Un individu doit s'assurer que sa confession de foi et sa vie soient en harmonie. La bouche et le cœur doivent proclamer le même message, le même évangile. Par le cœur, nous entendons notre personnalité entière. Voyez-vous, certaines personnes affirment croire au Seigneur Jésus du bout des lèvres, mais leur cœur est très loin du Seigneur Jésus. Lorsque vous faites une profession de foi publique, assurez-vous que votre cœur soit en accord avec vos paroles. Autrement dit, vos paroles doivent provenir de votre cœur. Ne faites pas simplement prononcer des paroles vaines. Si vous confessez le Seigneur Jésus sans véritablement mettre votre foi en lui, votre cœur vous trompe ou vous êtes hypocrite. Si vous croyez en lui sans le confesser, alors c'est ce que vous avez peur des hommes. Il semble que Paul affirme la même chose que Jacques. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Jacques, chapitre 2, verset 20. Si vous êtes pour laisser parler votre bouche, assurez-vous d'avoir une véritable foi dans votre cœur. « Crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts » signifie que la résurrection du Seigneur Jésus est le cœur même de l'Évangile. Comme Paul a dit au chapitre 4, « Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Romains chapitre 4, verset 25. Revenons à notre texte. Romains 10, verset 11. « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Le salut a un caractère universel. Paul cite Ésaïe, chapitre 28, verset 16. « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » La différence entre notre verset et l'original n'est pas due à une modification de la traduction, mais le mot original pour confondre et avoir honte est le même. Le mot signifie fuir parce qu'on a peur. Paul cite ce verset pour démontrer que le concept de la justice qui s'obtient par la foi se trouve dans l'Ancien Testament. De plus, le mot quiconque démontre le caractère universel du salut. Verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Pour être sauvés, nous devons tous venir au Seigneur Jésus. Dieu ne fait pas de distinction entre le juif et le grec. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour être sauvés, nous devons tous venir au Seigneur Jésus. Le Seigneur a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nul ne vient au Père que par moi. Rapporté par l'évangéliste Jean, chapitre 14, verset 6. Oui, chers amis, nous ne venons pas à Dieu par des rituels, ni par la loi mosaïque. Le salut s'obtient par la foi, et son fondement est la miséricorde de Dieu. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà un énoncé remarquable que Paul tire de l'Ancien Testament, du prophète Joël, chapitre 2, verset 32, pour appuyer la thèse du salut par la foi. Les Juifs et les païens doivent invoquer le nom du Seigneur Jésus. Cela signifie croire en Jésus-Christ. Versets 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Il est nécessaire d'entendre la parole pour être sauvé. Il est nécessaire de bien comprendre la situation de Paul pour saisir tout le sens de ces versets. Les Juifs, le peuple de Paul haïssait l'apôtre Paul, même s'ils ont admiré Saul, le pharisien. Paul démontre la logique de sa position. Ils ont rejeté le message de Paul et le droit de n'importe quel apôtre de proclamer un évangile qui n'insistait pas sur la loi mosaïque qui avait dégénéré pour devenir le système légaliste des pharisiens. Paul affirme qu'il doit y avoir des messagers envoyés par Dieu pour proclamer l'évangile, la bonne nouvelle. Au début de cette épître, Paul s'est présenté comme un apôtre appelé par le Seigneur Jésus pour annoncer l'Évangile. Romains chapitre 1, verset 1. Donc, nous sommes devant une séquence logique. Des prédicateurs doivent être envoyés vers les gens pour qu'ils entendent et qu'ils puissent croire, sinon ils ne sauraient pas comment venir à Dieu. Tout revient à la foi. C'est cela qui rendait le ministère de Paul nécessaire. Paul renforce son argument avec une citation du prophète Ésaïe, chapitre 52, verset 7. « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Cette citation précède le merveilleux chapitre 53 du livre d'Ésaïe qui prophétise la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Ce chapitre débute avec la question « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?» Ésaïe chapitre 53 verset 1er. La loi mosaïque n'était pas une bonne nouvelle, car elle était un ministère de mort qui révélait le besoin d'un sauveur. Le texte précise qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Je pense que notre émission radiophonique à travers la Bible est importante, et j'espère continuer ce ministère le plus longtemps possible. Les pieds ne sont pas la belle partie du corps. Cependant, Dieu dit que les pieds de ceux qui sont appelés à proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle, sont beaux. La radio nous permet de rejoindre des gens de toutes les régions du Québec et même d'ailleurs, qu'ils se trouvent à la maison, dans leur auto au travail. Verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Nous sommes heureux des nombreuses personnes qui ont affirmé avoir reçu le Seigneur comme sauveur en écoutant nos émissions. Cependant, ils sont une minorité infime. Qui a cru à notre prédication? Peu de gens, malheureusement. Verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ceci est important. La foi ne vient pas en enseignant la philosophie ou la psychologie ou un système politique. Elle vient en entendant la parole de Dieu. Tant que vous n'entendez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être sauvés, mes amis. Il vous faut la parole de Dieu. Verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Paul ne pensait pas à la radio en disant cela, mais cela s'applique à la diffusion de l'Évangile par la radio partout dans le monde. La radio permet d'atteindre les extrémités de la terre. Verset 19. Mais je dis, Israël, ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, « J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Paul cite Deutéronome, chapitre 32, verset 21. Aujourd'hui, Dieu appelle un peuple parmi les païens. Paul reviendra sur ce sujet au prochain chapitre. Verset 20. Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Paul cite cette fois Ésaïe, chapitre 65, verset 1er. « J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, « me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. » Ésaïe avait prédit la conversion des païens. Les païens qui étaient dans les ténèbres découvrent le Seigneur Jésus. Quelle excuse pourra donner Israël qui avait l'Ancien Testament? Ce peuple est sans excuse. Verset 21. Mais au sujet d'Israël, il dit, « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. » J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Ésaïe, chapitre 65, verset 2. Personne ne sait comment patient et gracieux Dieu fut avec la nation d'Israël. La patience de Dieu est grande, chers amis. Les dernières paroles d'Étienne à sa nation sont révélatrices. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée. Actes, chapitre 7, versets 51 à 53. Le problème n'est pas confiné à Israël. Dieu tend les mains vers un monde contredisant. La patience de Dieu est étonnante. Au chapitre 9, nous voyons comment Dieu a traité avec Israël dans le passé. Au chapitre 10, nous voyons comment il le fait présentement. Et au chapitre 11, nous examinerons ce que Dieu planifie pour l'avenir d'Israël. Israël, a rejeté le concept du salut par la foi, ainsi que la justice de Dieu qui leur a été proposée. Dieu a temporairement rejeté la nation. Quel est le plan de Dieu pour l'avenir d'Israël? Les promesses de l'Ancien Testament sont-elles annulées par le rejet de la nation? Ce chapitre nous donne la réponse. Lisons Romains chapitre 11, verset 1er. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis Israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. De quel peuple est-ce que Paul parle? D'Israël. Paul est spécifique et se présente comme preuve vivante. Il est un vrai Israélite, de la tribu de Benjamin qui descend d'Abraham. Cette tribu ne s'est jamais séparée de la nation. On ne pouvait pas avoir plus Israélite que Paul. Loin de là est une négation puissante. La formulation de la question demande cette réponse négative. Dieu n'a pas rejeté Israël. Versets 2 et 3. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture apporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Paul illustre son point avec l'exemple du prophète Élie. Ce prophète a défendu seul la cause de Dieu contre les 450 prophètes de Baal. Ensuite, Élie s'est plaint à Dieu d'être seul. Mais Dieu lui répondit qu'il n'était pas seul. Verset 4. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Élie ne percevait pas que Dieu travaillait dans le cœur de 7000 hommes. Si 7000 hommes ne se sont pas inclinés devant Baal, il devait y avoir autant de femmes, donc autant d'Akab et de Jézabel, il y avait un reste important. Verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Dieu a toujours conservé un reste en Israël. Aujourd'hui, le reste est composé des Juifs convertis au Seigneur Jésus. C'est pourquoi Paul dira plus loin que tout Israël n'est pas Israël. Verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Le salut par grâce est incompatible avec un salut mérité par les œuvres. Autrement dit, le salut par grâce et le salut par les œuvres sont deux systèmes mutuellement exclusifs et entièrement incompatibles. Présentement, le reste est composé de ceux qui ne sont pas sauvés par les œuvres ou par leur propre mérite, mais par la grâce de Dieu. Le plan futur de Dieu, depuis le temps de Paul jusqu'à aujourd'hui, concerne ceux qui vont accepter le Seigneur Jésus. Qu'en est-il de ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ? Bien, cette fraction d'Israël est endurcie. Pour un temps. Il est important de se rendre compte qu'ils sont endurcis à cause de leur rejet du Seigneur. Ils n'ont pas tombé parce qu'ils furent endurcis. De nombreuses personnes mettent la charrue avant les bœufs. Verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Ceux qui refusent la lumière peuvent devenir aveugles. Est-ce qu'ils ont rejeté le Seigneur Jésus parce qu'ils avaient été aveuglés? Non. Ils ont été exposés à l'Évangile plus que tout autre peuple. Dieu a dit, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Romains chapitre 10, verset 21. Dieu fut patient avec Israël. Maintenant, ils sont aveugles parce qu'ils ont refusé de venir à la lumière. Verset 8. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, Une personne qui rejette le message de Dieu devient une personne difficile à toucher avec l'Évangile et la grâce de Dieu. Verset 9. Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. C'est le psaume 69, verset 22, qui est cité. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. La table réfère aux festins qui sont un signe de prospérité matérielle. Dieu conviait les enfants d'Israël à de grandes fêtes. Ils n'invitaient pas Dieu à leurs fêtes comme le faisaient les païens, mais c'est Dieu qui les invitait. La Pâque est un exemple de ces fêtes. Dans le verset devant nous, la pensée est un festin fait de manière païenne. La sécurité charnelle d'Israël les trompait au sujet de leur ruine spirituelle. Ils mettaient leur confiance dans les festins plutôt qu'en Dieu, mes amis. Des milliers de personnes qui se disent chrétiennes sont dans cette même situation. Ils fêtent Noël, célèbrent Pâques, mais oublient qui est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Ces personnes sont prêtes à venir au repas du Seigneur même, sans aucun discernement spirituel. Verset 10. Que leurs yeux soient obscurcis, pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. Dieu donne sa révélation et sa lumière afin que les hommes puissent voir, mais s'ils sont aveugles, ils ne verront rien. La lumière révèle l'aveuglement des multitudes de nos jours. Je suis étonné du nombre de personnes intelligentes qui ne comprennent pas la Bible. Le salut par la grâce est un salut universel, offert à quiconque. Nous devons croire de tout notre cœur. La foi vient de la parole de Dieu, donc il est nécessaire d'avoir des prédicateurs. La patience de Dieu est grande, mais il a fini par endurcir Israël qui a rejeté son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Te voilà, toi aussi, à ton tour, devant un choix, devant cette grande décision. Dieu a parlé, Dieu a agi. Rappelle-toi ce texte de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé, il l'a déclaré, qu'il a donné son Fils, il a agi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il te l'offre à toi aujourd'hui. Que vas-tu en faire? Il t'offre l'Évangile de grâce. Il t'offre le merveilleux message de la grâce, la bonne nouvelle. Qu'un pécheur peut être sauvé par la foi placée en Jésus-Christ. Que vas-tu en faire de cette offre venant de Dieu lui-même? Il est le Créateur. Nous sommes sa création. Tu es une créature de Dieu. Dieu maintenant te place devant cette décision. Moi, je t'encourage. C'est ce que je peux faire. T'encourager à faire le bon choix, à te tourner vers Dieu, à implorer sa grâce, sa miséricorde, son amour, le pardon qu'il t'offre maintenant, à le recevoir, à ouvrir ton cœur et à dire « Oui Dieu, je reconnais que je suis un être pécheur devant toi. J'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'être pardonné, d'être lavé, purifié de tout péché. » Et c'est seulement par le sacrifice de Jésus-Christ que je peux obtenir le pardon, la purification de mes péchés. Je le reconnais, je le confesse et j'y crois de tout mon cœur. Et par le fait même, je remplis toutes les conditions que tu as mises devant moi afin d'être sauvé. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Romains chapitre 11, versets 11 à 25.
Merci, Régent. Le salut par grâce est incompatible avec un salut mérité par les œuvres. Ça, c'est bien clair, surtout après avoir entendu l'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui. Ces jours-ci, je suis en train de lire un livre qui s'intitule « L'homme sur le chemin d'Emmaüs » de John R. Cross. C'est vraiment intéressant. Je vous encourage à le lire, peu importe si vous êtes ou si vous n'êtes pas croyant. Ce livre va sûrement vous fasciner. En le lisant ce matin, il était justement question du salut que les gens essaient d'obtenir par les œuvres. et j'ai vu que cette façon d'essayer d'aller au ciel n'est pas d'hier. Permettez-moi de vous citer un court passage de ce livre. Ça commence dans le 3e chapitre du livre de la Genèse, au verset 7. « Les yeux de l'un et de l'autre, c'est-à-dire d'Adam et Ève, s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Adam et Ève ont ressenti immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ils étaient profondément affligés. Pour la première fois, ils éprouvaient un malaise, celui de la culpabilité et de la honte. La Bible dit qu'ils ont eu peur. Adam et Ève ont reconnu pour la première fois qu'ils étaient nus. Cherchant désespérément une solution à leur dilemme, ils ont cousu des feuilles de figuier et ils en firent des ceintures. » Fin du verset. Ils pensaient peut-être qu'en arrangeant leur apparence extérieure, Dieu ne remarquerait pas que quelque chose avait changé à l'intérieur. Ils feraient semblant de rien et tout irait bien. Et l'auteur termine en disant que c'était la première tentative de l'homme pour rectifier par ses propres moyens un monde dégénéré. Adam et Ève ont essayé de se sauver par leurs propres moyens, mes amis. Mais Dieu, dans son amour, prévoyait déjà un moyen parfait pour sauver les pécheurs perdus, à partir d'Adam et Ève jusqu'à nous aujourd'hui, et aussi longtemps qu'il y aura des pécheurs sur cette terre. Combien de fois, en faisant des sondages un peu partout au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, j'ai rencontré des gens qui répondaient sensiblement la même chose à la question « Si vous deviez mourir cette nuit, que vous arriviez devant Dieu et qu'il vous demandait « Pourquoi est-ce que je devrais te laisser entrer? » Qu'est-ce que vous lui répondriez? » La majorité des gens me répondent « Parce que j'ai mené une bonne vie, que j'ai aimé mon prochain, que j'ai fait mon possible. » Bien sûr, souvent ces gens n'ont pas encore entendu parler de l'unique moyen que Dieu offre à tous les pécheurs perdus pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle. Et quelle joie c'est pour moi de pouvoir l'annoncer à ceux qui veulent bien m'écouter. Mon ami, je pense que tu es sincère et que tu fais probablement comme Adam et Ève, que tu cherches à gagner ton ciel en quelque sorte, en faisant du bien autour de toi, en aidant ceux qui ont des difficultés, en aimant ton prochain du mieux que tu peux. Mais tout comme Adam et Ève, on ne t'a pas encore dit ce qu'il faut faire pour que Dieu t'accueille en sa présence pour l'éternité quand tu mourras. Parce que tu sais bien qu'on mourra tous un jour. Dans le 3e chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, tu n'as absolument rien à faire, sauf te repentir, changer de direction, demande à Jésus de te sauver, demande-lui de te donner la vie éternelle.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui seront aidés.
Tu as besoin d'amour. Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qui va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Bonne fin de semaine et à lundi.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.